Ce fut alors le début de leur seconde diaspora, qui devait durer 5 siècles et les conduire, leur rêve ayant pris fin avec la mort de l'ancienne Terre, sur des mondes déserts tels que Mars. Kassad, comme tous les autres garçons des camps de regroupement de Tarsis Sud, était obligé de se joindre à une bande ou de se résigner à être la proie de tous les prédateurs improvisés du camp. Il avait choisi les bandes. Avant d'atteindre l'âge de 16 années standard, il avait déjà tué un rival. Si Mars était réputé dans le Retz pour quelque chose, c'était pour ses parties de chasse dans Valles Marineris, pour son massif Zen de Schroeder dans le bassin de Hellas, et pour son école de commandement militaire d'Olympus. Kassad n'avait nul besoin de visiter Valles Marineris pour apprendre à être chasseur ou proie. Il n'éprouvait aucune attirance pour le gnosticisme zen et il ne ressentait, adolescent, que mépris pour les élèves officiers en uniforme qui venaient de tous les coins du Retz pour entrer dans la force. Avec ceux de sa bande, le jeune Kassad traitait les membres du nouveau Bushido de PD, mais il avait en lui, de longue date, une fibre d'honneur qui résonnait secrètement à l'évocation des samouraïs dont l'existence était organisée autour des notions de devoir, de dignité et de respect absolu de la parole donnée. À l'âge de 18 ans, Kassad se vit offrir par un juge itinérant de la province de Tarsis le choix entre une année martienne de travail forcé dans un camp de la région du Pôle et l'engagement, en tant que volontaire, dans la brigade John Carter, qui se formait alors en vue d'aider la force à écraser les rebelles du général Glennon Haidt, dont les activités étaient en recrudescence dans toutes les colonies de classe 3. Kassad fut donc volontaire. Il s'aperçut que la discipline et l'hygiène de vie militaire lui convenaient parfaitement, même si la brigade John Carter ne mena jamais qu'une vie de garnison au sein du Retz et fut dissoute peu après la mort du petit-fils cloné de Glennon Haidt sur la planète Renaissance. 2 jours après son 19e anniversaire, Kassad présenta sa candidature à la force et fut refusé. Il ne dessoula pas pendant les 9 jours qui suivirent, et se réveilla dans l'un des souterrains les plus profonds de l'Usus, dépouillé de son implant persoc militaire par quelqu'un qui, apparemment, avait suivi des cours de chirurgie par correspondance, et de sa plaquette universelle. Il n'avait plus accès aux distances, et sa tête explorait de nouveaux territoires de douleur. Il travailla sur l'Usus durant toute une année standard pour économiser un peu plus de 6000 marks. Soumis à une gravité égale à 1,3 par rapport au standard terrestre, il eut amplement le temps de s'adapter aux conditions martiennes, de sorte que, lorsqu'il eut enfin de quoi se payer le passage pour Alliance Maui sur un antique cargo à voile solaire équipé de réacteurs Hawking bricolés, Kassad pouvait toujours être qualifié de grand et maigre selon les critères généralement en vigueur dans le Retz. Mais cela ne l'empêchait pas de posséder une musculature qui donnait toute satisfaction en quelque lieu que ce fût. Il arriva sur Alliance Maui exactement 3 jours avant le début de la sale et impopulaire guerre des îles. Au bout de quelque temps, le commandant interarme de la force sur le site numéro 1 en eut tellement assez de voir le jeune Kassad faire antichambre devant son bureau qu'il l'autorisa à s'engager dans le 23e régiment d'approvisionnement comme pilote auxiliaire d'hydroptère. 11 mois standard plus tard, le caporal Fedman Kassad du 12e bataillon d'infanterie mobile s'était déjà vu décerner 2 constellations du mérite militaire, une citation du Sénat pour sa bravoure durant la campagne de l'archipel équatorial et 2 médailles pourpres. De plus, il figurait sur la liste des postulants à l'école militaire de la force et fut renvoyé dans le Retz avec le convoi suivant. Il rêvait souvent d'elle. Elle ne lui avait jamais dit son nom, elle ne lui avait même jamais parlé, mais il l'aurait reconnue sans hésitation au toucher et à l'odeur, parmi 10 000 autres dans l'obscurité la plus totale. Il avait fini par l'appeler Arcane. Lorsque les autres élèves officiers allaient voir les putes où se trouvaient des filles dans la population indigène, Kassad restait à la base militaire ou faisait de longues promenades à travers les cités étrangères. Il tenait secrète son obsession, car il savait très bien ce que cela donnerait dans un rapport psychologique. Parfois, durant un bivouac sous un ciel éclairé par des lunes multiples ou dans le ventre à gravité zéro d'un transport de troupes, il prenait conscience du caractère insensé de son histoire d'amour avec un fantôme. Mais il se souvenait alors du petit grain de beauté sous le sein gauche qu'il avait embrassé une nuit. Il avait senti palpiter le cœur d'Arcane sous ses lèvres, tandis que la terre tremblait sous les coups des canons géants de Verdun. et il se rappellerait toujours le petit geste d'impatience avec lequel elle avait ramené ses cheveux en arrière en soulevant légèrement la joue qui reposait sur sa cuisse. Les jeunes officiers continuaient donc d'aller en ville ou dans les huttes qui entouraient la base, pendant que Cassade lisait des livres d'histoire, courait autour de l'enceinte militaire ou faisait des simulations tactiques sur son persoc. Il ne fallut pas très longtemps pour que ses supérieurs le remarquent. Pendant la guerre non déclarée avec les libres mineurs des territoires périphériques de Lambert, ce fut le lieutenant Cassade qui conduisit les troupes d'infanterie survivantes et les Marines à travers le puits de mine de Pérégrine, sur le vieil astéroïde, pour évacuer le personnel du consulat et les citoyens de l'hégémonie qui s'étaient réfugiés au fond. Mais c'est durant le court règne du nouveau prophète sur Com Riyad que le capitaine Fedman Cassade s'imposa à l'attention du Retz tout entier. Le commandant du seul vaisseau de la force spatiale de l'hégémonie qui se trouva à moins de 2 années de voyage du monde colonie était à la surface en visite de courtoisie lorsque le nouveau prophète décida de dresser 30 millions de chiites de l'ordre nouveau contre 2 continents entiers de petits boutiquiers sunnites et 90 000 résidents infidèles ressortissants de l'hégémonie. Le commandant du vaisseau et 5 de ses officiers supérieurs furent faits prisonniers. Des messages urgents de Tosetti Central affluèrent sur les mégatrans, réclamant que l'officier le plus gradé à bord de l'HS de Nièvre prit immédiatement des mesures pour régler la situation sur Com Riyad, libérer les otages et déposer le nouveau prophète, tout cela sans recourir à l'utilisation d'armes nucléaires dans l'atmosphère de la planète. Le De Nièvre était un vieux patrouilleur du système orbital de défense qui ne possédait pas le moindre armement nucléaire susceptible d'être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une quelconque atmosphère. Et l'officier le plus gradé à bord était le capitaine Fedman Cassade. Le 3e jour de la Révolution, Cassade posa l'unique bâtiment d'assaut dont disposait le De Nièvre dans la cour centrale de la grande mosquée de Machad. À la tête de 34 combattants de la force, il vit grossir la foule des fidèles en colère jusqu'à 300 000 personnes uniquement retenues par le champ de confinement du vaisseau d'intervention et l'absence d'ordre d'attaque du nouveau prophète. Celui-ci n'était pas sur les lieux. Il s'était rendu dans l'hémisphère nord pour célébrer sa victoire. 2 heures après avoir posé son vaisseau, le capitaine Cassade sortit pour diffuser un bref communiqué. Il y disait qu'il était né et avait été élevé en tant que musulman, et que toutes les interprétations du Coran depuis l'époque des vaisseaux d'ensemencement chiites indiquaient sans équivoque possible que le dieu de l'islam n'excuserait ni ne permettrait jamais un massacre d'innocents, quels que soient les djihad proclamés par des hérétiques de pacotille comme leur nouveau prophète. Cassade avait ensuite donné 3 heures aux dirigeants des 30 millions de fanatiques pour lui remettre leurs otages et rentrer chez eux, sur le continent désert de Com. Au cours des 3 premiers jours de la Révolution, les armées du nouveau prophète avaient occupé la plupart des villes importantes des 2 continents et pris plus de 27 000 otages hégémoniens. Des pelotons d'exécution s'étaient occupés jour et nuit de régler les anciennes querelles théologiques. Selon les estimations de Cassade, au moins 250 000 sunnites avaient été massacrés les 2 premiers jours de l'occupation. En réponse à l'ultimatum, le nouveau prophète fit savoir qu'il mettrait tous les infidèles à mort immédiatement après son intervention télévisée en direct prévue dans la soirée. Il ordonna également que l'assaut soit donné contre le vaisseau d'intervention. Évitant l'emploi d'explosifs trop puissants à cause de la grande mosquée, la garde révolutionnaire n'avait à sa disposition que des armes automatiques, des canons à énergie, des charges au plasma et les vagues d'assaut de ses fantassins. Le champ de confinement tint bon. L'allocution télévisée du nouveau prophète commença 1 quart d'heure avant l'expiration de l'ultimatum de Cassade. Le nouveau prophète y disait en substance qu'il partageait l'opinion de Cassade sur le terrible châtiment qu'Allah réservait aux hérétiques, mais que ce châtiment s'abattrait sur les infidèles de l'hégémonie. C'était la première fois que le nouveau prophète perdait son calme devant les caméras. Écumant de rage, il renouvela son ordre de lancer des vagues d'assaut humaines contre le vaisseau stationné dans la cour de la mosquée et annonça qu'une 12aine de bombes à fission étaient assemblées en ce moment même dans la ville d'Ali, sur le site occupé du réacteur Énergie pour la paix. Avec ces bombes, les forces d'Allah deviendraient maîtresses de l'espace lui-même. La première bombe à fission serait utilisée ce soir même contre le vaisseau satanique de l'infidèle Kassad. Le nouveau prophète se mit alors à expliquer en détail de quelle manière les otages de l'hégémonie allaient être exécutés, mais l'ultimatum de Kassad expira au milieu d'une de ses phrases. Comme Riyad était, de par son propre choix et de par sa situation éloignée dans l'espace, un monde à la technologie primitive, mais pas assez toutefois pour ignorer l'infosphère. Les mollahs révolutionnaires à la tête de l'invasion n'étaient pas opposés au grand Satan de la science hégémonienne, au point de refuser de connecter leur père Soc au réseau d'information globale. Le HS de Niev avait disséminé suffisamment de satellites espions pour que, à 17h29, heure locale centrale de Com Riyad, l'infosphère eût livré au vaisseau de l'hégémonie les coordonnées de 6830 mollahs révolutionnaires, y compris leur code d'accès. À 17h29, les satellites espions commencèrent à émettre leurs instructions de tir en temps réel à l'intention des 21 satellites de défense périphérique que le vaisseau d'intervention de Kassad avait laissé sur orbite basse. Ces armes de défense orbitale étaient si anciennes que la mission du Doniev consistait précisément à les ramener dans leur ETS pour les y détruire sans danger. Mais Kassad leur avait trouvé une autre utilisation. À 17h30 précise, 19 de ces petits satellites amorcèrent l'explosion de leur noyau de fusion. Dans les nanosecondes précédant cette autodestruction, les rayons X ainsi produits furent concentrés, dirigés puis lâchés sous la forme de 16830 faisceaux de particules invisibles, mais non moins cohérentes. Les vieux satellites de défense n'étaient pas conçus pour un usage atmosphérique. Leur rayon de destruction efficace était de l'ordre du millimètre. Cependant, il n'en fallait pas plus. Ils ne franchirent pas tous les différents obstacles qui s'interposaient entre les mollahs et le ciel, mais 15 784 d'entre eux y parvinrent quand même, ce qui n'était pas trop mal. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Dans chaque cas, le cerveau et les fluides cérébraux de la cible humaine entrèrent en ébullition, se transformèrent en vapeur et firent éclater en morceaux la boîte crânienne. À 17h30, le nouveau prophète était en plein milieu de son allocution diffusée en direct sur toute la planète, et plus précisément au milieu du mot « hérétique ». Durant près de 2 minutes, les écrans de télévision et les écrans muraux de toute la planète montrèrent l'image du corps sans tête du nouveau prophète affaissé sur son micro. Puis, Fedman Kassad intervint sur l'ensemble du réseau pour annoncer que la prochaine échéance se situait dans 1 heure et que toute action entreprise contre les otages se solderait par une démonstration encore plus sévère du déplaisir d'Allah. Les otages furent libérés. Cette nuit-là, en orbite autour de Com Riyad, Arkan rendit visite à Kassad pour la première fois depuis les cimes de l'école militaire. Il dormait, mais cette visite fut un peu plus qu'un rêve, tout en étant un peu moins que la réalité parallèle des simulations du RTH-ECMO. Ils étaient côte à côte sous une couverture légère, à l'abri d'une toiture à moitié défoncée. Sa peau était chaude et électrique, son visage n'était qu'un vague contour parmi les ombres de la nuit. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à peine à disparaître dans la fausse clarté qui précède l'aube. Kassad se rendit compte qu'elle faisait des efforts pour lui dire quelque chose. Les lèvres douces formaient des mots juste en dessous de son seuil de perception auditive. Il prit un peu de recul pour essayer de mieux distinguer ses lèvres, mais ce faisant, perdit tout contact avec elle. Il sortit du sommeil dans son harnais de nuit, avec des traces humides sur la joue, et le ronronnement des systèmes de bord parvenait à ses oreilles comme la respiration étrange de quelques bêtes à demi éveillées. 9 semaines vaisseau standard plus tard, Kassad fut traduit devant une cour martiale de la force sur Freeholm. Il savait très bien, lorsqu'il avait pris sa décision sur Com Riyad, que ses supérieurs n'auraient pas d'autre choix que de le crucifier ou de le faire monter en grade. La force se targuait de pouvoir faire face à n'importe quel type de situation dans le ETS ou les mondes coloniaux, mais rien ne l'avait préparé vraiment à la bataille du continent sud de Brescia, avec ses répercussions sur le nouveau Bushido. Le code d'honneur du nouveau Bushido, qui gouvernait la vie de Kassad, avait évolué en fonction de la nécessité de survivre de la classe militaire. Après les atrocités de la fin du XXe et du début du XXIe siècle sur l'ancienne Terre, où les chefs de guerre avaient engagé leurs nations respectives dans des stratégies qui prenaient les populations civiles tout entières comme objectif légitime, tandis que les bourreaux en uniforme se réfugiaient à 50 mètres sous terre dans des bunkers pourvus de tout, l'hostilité des civils survivants envers tout ce qui portait le nom de « militaire » avait été si forte que durant plus d'un siècle, ce seul mot avait été synonyme d'appel au lynchage. Dans son évolution, le nouveau Bushido avait combiné les anciens concepts d'honneur et de vaillance avec la nécessité absolue d'épargner les populations civiles chaque fois que la chose était possible. Il avait également retenu comme souhaitable le retour au concept pré-napoléonien de guerre non totale, à objectif bien défini, d'où tout excès devait être proscrit. Le nouveau Bushido exigeait non seulement l'abandon de toutes les armes nucléaires et de toutes les campagnes de bombardement stratégique, à l'exception des cas de nécessité absolue, mais il allait encore plus loin en demandant le retour au concept médiéval de la bataille rangée entre des forces limitées de soldats professionnels, en un lieu et en un moment mutuellement convenu d'avance, dans le but de limiter le plus possible toute destruction de biens publics ou privés. Le code d'honneur du nouveau Bushido fonctionna à peu près correctement durant les 4 siècles d'expansion post-égyrienne. Le fait que les technologies essentielles eussent été relativement figées durant 3 de ces siècles joua en la faveur de l'hégémonie, dont le monopole d'utilisation du distrans lui permettait d'utiliser ponctuellement les modestes ressources de la force chaque fois que le besoin s'en faisait sentir. Même séparé du reste de l'univers par les inévitables années de voyage du déficit temporel, aucun monde colonial ou indépendant ne pouvait espérer tenir tête à l'hégémonie. Des incidents tels que la rébellion politique d'Alliance Maui, avec sa manière toute particulière de conduire une guérilla, ou encore les insanités religieuses de Qom Riyad, avaient été réprimés rapidement et fermement, et tout excès commis à l'occasion de ces campagnes ne faisait que souligner l'importance de la stricte application du nouveau Bushido. Cependant, malgré tous les calculs et toutes les précautions de la force, personne n'avait réellement prévu ce qui se passerait lors de l'inévitable confrontation avec les extros. Les extros constituaient la seule menace extérieure qui pesait sur l'hégémonie durant les 4 siècles qui suivirent le départ du système Sol des ancêtres des hordes barbares, avec leur flotte archaïque de cités O'Neill dégoulinantes, d'astéroïdes déboulants et d'agricomètes expérimentales. Même après l'acquisition du réacteur Hawking par les extros, la politique officielle de l'hégémonie fut de les ignorer aussi longtemps que leurs essaims restaient dans les ténèbres interstellaires et limitaient leur rapine au prélèvement de petites quantités d'hydrogène sur les géantes gazeuses ou de blocs de glace pour leur approvisionnement en eau sur des lunes inhabitées. Les premiers raids des extros sur le monde de Bent ou sur GHC en 1990 furent considérés comme des accidents présentant peu d'intérêt pour l'hégémonie. Même la bataille rangée pour la conquête de l'I-3 fut traitée comme un problème ne dépassant pas le cadre du service colonial. Et lorsque l'unité d'intervention de la force arriva sur les lieux, 6 années locales après le début de l'attaque et 5 années locales après le départ des extros, les exactions commises furent commodément oubliées en fonction du principe selon lequel aucun raid barbare ne saurait se reproduire dès lors que l'hégémonie serait là pour montrer sa force. Au cours des décennies qui suivirent l'épisode de l'I-3, la force et les extros s'affrontèrent dans des centaines d'escarmouches aux confins du Reds. Cependant, à l'exception de quelques étranges rencontres faites par les Marines dans des endroits sans atmosphère et sans gravité, il n'y eut pas de véritables affrontements entre des armées de fantassins. Les rumeurs se multipliaient dans tout le Reds. Les extros ne constitueraient jamais une menace pour les mondes de type terrestre en raison de leur adaptation, étalée sur 3 siècles, à l'impesanteur. Les extros avaient évolué pour devenir quelque chose de plus, ou peut-être de moins, que de simples humains. Les extros ignoraient la technologie distrans. Ils ne la maîtriseraient jamais et ne constitueraient par conséquent jamais une menace pour la force. Jusqu'à Brescia. Il s'agissait d'un de ces petits mondes tranquilles et indépendants qui se satisfaisaient à la fois d'un accès commode au reste du Reds et des quelques 8 mois de voyage qui l'en séparaient. Il s'enrichissait de plus en plus grâce au commerce des diamants, de la racine de bourre et de son inégalable café. Il refusait modestement de devenir une colonie à part entière, mais continuait de compter sur le protectorat de l'hégémonie et sur son marché commun pour répondre à ses objectifs économiques en très forte expansion. Comme la plupart des autres planètes de cette catégorie, Brescia était fière de sa force de défense autonome, qui comprenait 12 vaisseaux torches, un porte-croiseur remis à neuf, racheté à l'hégémonie qu'il avait mis au rancard un demi-siècle auparavant, une cinquantaine de petits patrouilleurs orbitaux rapides, une infanterie de 90 000 engagés, une marine planétaire respectable et tout un stock d'armes nucléaires dont le rôle était principalement symbolique. La signature Hawking des extros avait été détectée par les stations de surveillance hégémoniennes, mais interprétée à tort comme une nouvelle migration d'essaim qui passerait à plus d'une demi-année de lumière du système de Brescia. Au lieu de quoi, avec une seule correction de trajectoire qui ne fut détectée que lorsque l'essaim se trouva à l'intérieur du nuage d'Oort, les extros fondirent sur Brescia comme un fléau de l'Ancien Testament. 7 mois standards au moins séparaient la planète de toute expédition hégémonienne de secours ou de représailles. La force de défense autonome de Brescia fut anéantie en moins de 24 heures de combat. L'essaim extro injecta alors plus de 3000 vaisseaux dans l'espace cislunaire de Brescia et entreprit la réduction systématique de toutes les défenses planétaires. Brescia avait été colonisée par d'austères pionniers venus d'Europe centrale lors de la première vague d'émigration égyrienne. Ces deux continents, très prosaïquement, portaient les noms de continent nord et de continent sud. Le continent nord comprenait des déserts, une toundra d'altitude et six villes de moyenne importance, principalement peuplées d'exploitants agricoles, de racines de bourg et de travailleurs du pétrole. Le continent sud, au climat et à la géographie beaucoup plus souriant, abritait la grande majorité de la population planétaire, forte de 400 millions de personnes. C'était là également que se trouvaient les immenses plantations de café. Comme s'ils voulaient faire une démonstration complète des horreurs de la guerre ancienne, les extros lâchèrent sur le continent nord un déluge de plusieurs centaines de bombes nucléaires sans retombées, ainsi que des bombes tactiques au plasma. Il y eut ensuite les rayons de mort et, pour couronner le tout, des virus modifiés. Seule une poignée de résidents parmi les 14 millions en réchappa. Le continent sud, par contre, ne fut pas bombardé, à l'exception de quelques missiles lancés sur des objectifs militaires, des aéroports et les installations portuaires de Solno. La doctrine de la force était que s'il était possible de réduire une planète à partir d'une position orbitale, il était tout à fait impossible, par contre, d'envisager l'occupation militaire d'un monde industrialisé. Les problèmes de logistique, les dimensions de la zone à occuper et les effectifs inadéquats de l'armée d'invasion rendaient la tâche beaucoup trop difficile. De toute évidence, les extros n'avaient pas connaissance des manuels de théorie militaire de la force. 23 jours après le début de l'attaque, plus de 2000 vaisseaux de descente et d'assaut s'abattirent sur le continent sud. Le reste de l'aviation bressiane fut détruit dans les premières heures de cette invasion. Deux engins à charge nucléaire explosèrent bien dans la zone de rassemblement extro, mais les effets du premier furent déviés par des champs énergétiques et le second ne détruisit qu'une unité de reconnaissance qui était peut-être un leurre. Les extros, comme on devait s'en apercevoir bientôt, avaient effectivement changé au cours de ces 3 siècles. Ils préféraient bien évoluer dans un environnement à gravité zéro, mais leur infanterie mobile était munie d'exosquelettes motorisés très performants et il ne lui fallut que quelques jours pour amener ses troupes aux longs membres, en uniforme noir, à pied d'œuvre devant les cités de Brescia comme une armée d'araignées géantes. Les dernières velléités de résistance organisées s'éteignirent le 19e jour de l'invasion. Buckminster, la capitale, tomba dans la même journée. Le dernier message mégatrans de Brescia à destination de l'hégémonie fut coupé en pleine transmission 1 heure à peine après l'entrée des troupes extro dans la ville. Le colonel Fedman Kassad arriva avec la première flotte de la force 29 semaines standard plus tard. 30 vaisseaux torches de la classe Oméga, assurant la protection d'un seul portier équipé d'un distrans, pénétrèrent le système à grande vitesse. La sphère de singularité fut activée 3 heures après la descente. 10 heures plus tard, il y avait 400 unités de la force en ligne à l'intérieur du système. La contre-invasion débuta 21 heures après. Telle fut la réalité mathématique des premières minutes de la bataille de Brescia. Mais pour Kassad, le souvenir de ses jours et de ses semaines n'était pas fait de mathématiques. il était fait de la terrible beauté du combat. C'était la première fois qu'un vaisseau portier était utilisé à un niveau supérieur à celui d'une division, et il s'ensuivit une confusion qui n'était pas tout à fait inattendue. Cassad traversa à une distance de 5 minutes de lumière et tomba sur une pente de gravier et de poussière jaune, car la porte distrance du bâtiment d'assaut faisait face à un versant de colline escarpée rendu glissant par la boue et le sang des premiers escadrons qui venaient de passer. Il demeura quelques instants dans la boue, contemplant, au pied de la colline, un spectacle de pure folie. 10 des 17 bâtiments d'assaut équipés de distrance étaient en train de brûler au sol, dispersés parmi les collines et les plantations comme des jouets disloqués. Les champs de confinement des vaisseaux rescapés se rétractaient sous les assauts des missiles et des BCC, qui transformaient les zones d'arrivée en dômes de feu orange. Le visu tactique de Cassad était en pièces. Son casque n'affichait qu'un impossible emmêlement de vecteurs de tir et de points rouges clignotants, indiquant les endroits où les unités de la force gisaient agonisantes, sur fond de brouillage extro générant des images fantômes en surimpression.
« Bordel de Dieu !»
gémissait une voix sur son circuit primaire de commandement.
« Bordel de Dieu !»
Là où les instructions de son groupe de commandement auraient dû se trouver, ses implants ne captaient plus qu'un grand vide. Un soldat l'aida à se relever. Il secoua son bâton de colonel pour en dégager la boue et s'empressa de s'éloigner pour laisser place au nouvel escadron qui allait arriver par le distance. La guerre était bien partie. Dès les premières secondes sur le continent sud de Brescia, Cassad avait compris que le nouveau Bushido était mort et enterré. 80 000 fantassins de la force, superbement armés et entraînés, s'avancèrent néanmoins au combat, espérant que l'affrontement aurait lieu sur un champ de bataille désert, tandis que les extros battaient en retraite derrière les lignes de terre brûlées, où il n'y avait que des mines et des cadavres de civils. La force utilisa ses modulateurs distance pour contourner les positions de l'ennemi et le forcer à accepter le combat, mais les extros répliquèrent par des tirs de barrage d'obus nucléaires et au plasma, qui clouèrent les fantassins de l'hégémonie sous les abris des champs de force, donnant ainsi à leur propre infanterie le temps de se retirer sur des positions de défense préparées à l'avance aux abords des villes et des zones de rassemblement des vaisseaux de descente. Aucune victoire spatiale ne vint compenser les revers du continent sud. Malgré quelques belles manœuvres et quelques engagements féroces, les extros demeurèrent maîtres de la situation dans un rayon de 3 UA autour de Brescia. Les unités spatiales de la force se replièrent, ne cherchant plus qu'à demeurer à portée de distance et à protéger leurs vaisseaux portiers. La bataille, au lieu de durer 2 jours au sol, comme l'avaient prévu les états-majors, s'étira sur 30 jours, puis 60. Les méthodes de guerre avaient régressé jusqu'au 20e ou 21e siècle. Les sinistres campagnes se succédaient sur les ruines des villes et les cadavres de la population civile. Les 80 000 soldats hégémoniens du début furent décimés, renforcés par 100 000 autres, et le massacre continuait toujours lorsque des renforts de 200 000 hommes furent demandés. Seule l'obstination farouche de Maynard Gladstone, soutenue par une 12aine de sénateurs tout aussi déterminés, maintint la guerre en vie et les troupes au casse-pipe, tandis que des milliards de voix dans toute la Pangermie et à l'Assemblée consultative des IA réclamaient le désengagement. Cassad n'avait pas tardé à comprendre le changement de tactique. Ses instincts de bagarreur des rues avaient pris le dessus avant que sa division ne fût totalement anéantie dans la bataille de Stone Heap. Alors que les autres commandants étaient paralysés par cette série de violations du nouveau Bushido, Cassad, à la tête de son régiment et bientôt de toute une division à la suite de la destruction nucléaire du centre d'opération Delta, essayait de gagner du temps pour économiser ses hommes et préconisait l'emploi d'armes à fusion pour servir de fer de lance à sa contre-attaque. Lorsque les extros se retirèrent enfin, 97 jours après que la force eut sauvé Brescia, Cassad avait gagné le surnom à double tranchant de « boucher de Brescia », et l'on murmurait que même ses propres hommes étaient terrorisés devant lui. Mais pendant tout ce temps, Cassad continuait de l'avoir dans des rêves qui étaient un peu plus et un peu moins qu'un songe. Le dernier soir de la bataille de Stone Heap, dans le dédale noir des galeries où Cassad et son groupe de choc utilisaient des soniques et des gaz T5 pour nettoyer les derniers terriers des commandos extro, le colonel s'endormit au milieu des flammes et des cris et sentit le contact de ses longs doigts sur sa joue ainsi que la douce pression de ses seins contre lui. Quand ils étaient entrés dans la Nouvelle-Vienne, le lendemain matin de la frappe nucléaire spatiale ordonnée par Kassad, les troupes victorieuses, suivant les sillons vitrifiés de 20 mètres de large jusque dans la cité dévastée par les missiles, le colonel avait contemplé sans broncher les rangées de têtes humaines soigneusement alignées sur les trottoirs comme pour souhaiter la bienvenue, de leur regard accusateur, aux troupes libératrices de la force. Puis il avait regagné son VEM de commandement. Après avoir verrouillé les portes, il s'était couché en chien de fusil dans la chaude obscurité ionisée, imprégnée d'odeurs de caoutchouc et de plastique surchauffé. Il avait alors entendu sa voix qui lui murmurait des mots doux, couvrant le babillage de la radio et de ses implants de communication. La nuit qui avait précédé la retraite des extros, Kassad avait quitté la conférence de commandement à bord du vaisseau amiral Brasil pour se distransporter dans son QG des Indélébiles, au nord de la vallée de la Hine. Là, il avait pris son véhicule d'état-major blindé pour grimper au sommet de la colline afin de contempler le bombardement final. La frappe nucléaire tactique la plus proche se situait à une distance de 45 km. Les bombes au plasma s'ouvrirent comme des fleurs orangées et sanguines, disposées selon une grille parfaite. Kassad compta plus de 200 colonnes dansantes de lumière verte, tandis que les rayons des clapes lacéraient le vaste plateau. Et sans même qu'il s'endorme, alors qu'il était adossé à la jupe évasée du VEM, secouant la tête pour chasser de sa rétine les pâles rémanences, il la vit de nouveau. Elle portait une robe bleu clair et s'avançait vers lui d'un pas aérien, au milieu des buissons de bourre calcinés de la colline. La brise soulevait l'ourlet du tissu diaphane de son vêtement. Ses bras et son visage étaient d'une pâleur presque transparente. Elle cria son nom, il eut l'impression de l'entendre de loin, au moment où la deuxième vague de missiles surgissait à travers la plaine qu'il dominait et où tout était secoué par un déchaînement de bruit et de flammes. Comme c'est souvent le cas dans un univers apparemment gouverné par l'ironie, Fedman Kassad passa indemne au travers des 97 jours des pires combats que l'hégémonie eut connus pour se faire grièvement blesser 2 jours après le départ du dernier extro dans son vaisseau d'essaim en déroute. Il se trouvait à l'intérieur du centre civique de Buckminster, l'un des 3 seuls immeubles encore debout de toute la ville, occupé à répondre de manière laconique à une série de questions stupides posées par un médiatique du Reds, lorsqu'une bombe piège au plasma, pas plus grande qu'un micro-rupteur, explosa 15 étages plus haut. Le souffle éjecta dans la rue, par une grille de ventilation, le médiatique et 2 des collaborateurs de Kassad. L'immeuble s'écroula sur les autres. Kassad fut médévacué jusqu'au QG de division, puis distransporté à bord du vaisseau portier en orbite autour de la deuxième lune de Brescia. On le ressuscita et on le maintint en vie pendant que les plus hauts militaires et politiciens de l'hégémonie décidaient de ce qu'il convenait de faire de lui. En raison des liaisons distrans et de la couverture médiatique en temps réel des événements de Brescia, Kassad était plus ou moins devenu une figure célèbre. Les milliards de personnes qui s'indignaient de la sauvagerie sans précédent de la campagne de Brescia auraient été heureux de voir le colonel Kassad traduit devant une cour martiale qui l'aurait condamné pour crime de guerre. Mais la présidente Gladstone, ainsi que beaucoup d'autres, considéraient Kassad et les autres commandants de la force comme des sauveurs. Finalement, Kassad fut mis dans un vaisseau de la force à effet de spin pour accomplir le lent voyage de retour au Retz. Comme, de toute manière, les interventions chirurgicales nécessaires pouvaient se faire en état de fugue, il paraissait censé de grouper les blessés et les morts ressuscitables à bord de ce vieux navire hôpital. Lorsqu'ils arriveraient dans le Retz, ils seraient tous rétablis et bons pour le service actif. Mais, chose très importante pour Kassad, il aurait accumulé dans l'intervalle un déficit de temps au moins égal à 18 mois standard, et il y avait de fortes chances pour que les controverses dont il était l'objet soient alors oubliées.